Quelles sont les raisons qui donnent la certitude que la race humaine pourra obtenir la vie éternelle au cours des 1000 ans du règne de Christ? La réponse que la Bible donne à cette question est de grande importance. Nous nous proposons de traiter ce sujet en continuant notre étude du dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, et nous le ferons, comme toujours, dans un esprit de tolérance et de bonne volonté envers tous. Ces émissions internationales d'études de la Bible vous sont transmises par l'Association des étudiants de la Bible Aurore, éditeur des publications Aurore.
Merci Thomas. Je crois que nous pouvons dire que de la Genèse à l'Apocalypse, la Bible révèle le plan de Dieu qui prévoit de donner au genre humain l'opportunité d'obtenir la vie éternelle. Dieu déclara dans le jardin d'Éden que la postérité de la femme écraserait la tête du serpent. Et le dernier chapitre du livre de l'Apocalypse réitère cette promesse. Thomas, veux-tu lire ces 3 premiers versets de ce chapitre ?
Avec plaisir, Pierre. Je lis. « Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les bords du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème, le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs le serviront. » Tu sais, Pierre, c'est évidemment une merveilleuse assurance de vie pour le peuple de toutes les nations.
C'est bien vrai, Thomas, et remarque que le symbolique fleuve d'eau de la vie a sa source dans le trône de Dieu. Dans la Bible, le mot « trône » est employé pour symboliser l'autorité d'un gouvernement.
Autrement dit, le trône de Dieu est le royaume de Dieu.
C'est juste.
Mais, Pierre, d'après le texte que je viens de lire, le trône de Dieu est aussi le trône de l'agneau. Qu'est-ce que cela veut dire?
La première allusion faite à cet agneau dans le livre de l'Apocalypse se trouve au chapitre 5, verset 6. Ici, le révélateur nous dit qu'il vit un agneau qui était immolé. Mais bien que ce soit la première fois que le symbole de l'agneau soit mentionné dans l'Apocalypse, il est cependant maintes fois employé dans la Bible.
Pierre, est-ce le même agneau dont parle Jean-Baptiste lorsque, voyant passer Jésus, il dit « Voilà l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ».
Oui, et le symbole de l'agneau apparaît dès les premières pages de l'Ancien Testament, lorsque Abel offrit à Dieu un agneau en sacrifice. L'homme avait péché et Dieu avait promis qu'une semence écraserait la tête du serpent, voulant montrer par là de quelle manière les péchés seraient effacés. Ainsi, Dieu commença de dévoiler comment s'accomplirait sa promesse. Il révéla par une figure ce qui est clairement expliqué dans le Nouveau Testament, à savoir que sans effusion de sang, il ne pourrait y avoir rémission des péchés.
Il me vient à l'idée, Pierre, que Dieu procura un agneau à Abraham pour l'offrir en sacrifice à la place d'Isaac. Cela se rapporte-t-il avec à la figure qui représente Jésus comme étant l'agneau de Dieu?
Oui, Dieu avait promis à Abraham que par sa semence, toutes les familles de la terre seraient bénies. Isaac était un type de cette semence promise et Dieu a demandé à Abraham de l'offrir en sacrifice.
Tout comme Dieu donna son seul Fils pour être le Rédempteur et le Sauveur du monde.
C'est bien cela. Par ces mesures, Dieu voulait faire comprendre à Abraham que toutes les familles de la terre ne pouvaient pas être bénies à moins qu'un père de grand cœur ne donne son Fils bien-aimé en sacrifice.
Et ce Père est notre Père Céleste qui donna son Fils Jésus pour être le Rédempteur de l'homme. Ainsi Jésus était l'agneau de Dieu, Pierre. Que signifie le sacrifice de l'agneau pascal à la veille du départ d'Israël de l'Égypte? Cela avait-il aussi quelque rapport avec Jésus?
Oui, tout comme le sang de l'agneau pascal protégea et sauva de la mort les premiers-nés d'Israël. Et le jour suivant la délivrance de toute la nation d'Israël, de même, le sang de Christ rend possible d'abord le salut de ceux qui sont indiqués par Paul comme étant l'Église des premiers-nés, et ensuite, durant l'âge millénaire, la délivrance de tout le genre humain de l'esclavage, du péché et de la mort.
Il me souvient, Pierre, que dans notre étude de l'Ancien Testament, nous avons vu que le prophète Ésaïe, dans son livre, parle d'un agneau qui devait être immolé.
Oui, cela se trouve dans le 53e chapitre d'Ésaïe. Ainsi tu vois, Thomas, toutes ces figures et prophéties de l'Ancien Testament se rapportent à Jésus, et que Jean-Baptiste reconnut comme étant l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde.
Et c'est ce même symbole de la rédemption qui est représenté dans l'Apocalypse et mentionné d'abord dans le 5e chapitre.
Oui, et mis en évidence à partir de ce chapitre jusqu'à la fin du livre. Une autre allusion intéressante à l'agneau se trouve dans le premier verset du 14e chapitre.
Je vais lire ce verset. Je regardais, et voici. L'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes, qui avaient son nom et le nom de son père, écrit sur leur front. Pierre, que symbolise l'agneau qui se tient sur la montagne de Sion?
Dans de nombreuses prophéties, il est fait mention du mont de Sion, pour symboliser la phase spirituelle du royaume messianique. Dans le psaume 2, par exemple, c'est le Père Céleste qui dit « C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte ».
N'est-ce pas dans cette prophétie que le roi Jésus-Christ est dépeint comme brisant les nations avec une verge de fer, comme le vase d'un potier?
C'est juste, mais cela est simplement le premier travail du roi sur la symbolique montagne de Sion. Au dernier verset du 35e chapitre d'Ésaïe se trouve une prophétie se rapportant à la résurrection des morts, d'après laquelle les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chants de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront, les douleurs et les gémissements s'enfuiront.
C'est vraiment merveilleux de voir combien toutes les prophéties de la Bible s'harmonisent si admirablement. Pierre, dans le premier verset du 14e chapitre de l'Apocalypse, Jean dit qu'il vit non seulement l'agneau, mais aussi 144 000 personnes avec l'agneau. Qui sont-elles?
Au 4e verset de ce chapitre, nous lisons que ce sont ceux qui suivent l'agneau partout où il va.
Ce sont ses vrais disciples, ses fidèles serviteurs.
La promesse faite est sans cesse renouvelée, et que ceux qui suivent dans les traces de Jésus. C'est la raison pour laquelle ils sont montrés ici comme étant sur le mont de Sion avec l'agneau.
Et je remarque encore une autre allusion à l'agneau dans le 17e chapitre de l'Apocalypse. Dans ce chapitre, il est dit que la bête combat contre l'agneau et qu'elle est vaincue par ce dernier.
Et dans ce chapitre, il est aussi question de ceux qui sont avec l'agneau, de ceux qui ont été appelés et choisis et fidèles et qui par conséquent ont vraiment suivi l'agneau partout où il est allé.
Qu'est-ce qui est donc symbolisé par la bête qui fait la guerre à l'agneau?
Cette prophétie a son accomplissement à la fin de l'âge, lorsque la puissance de Christ établissant son royaume détruit les puissances du mal, ennemis de Dieu et réfractaires à la justice. Ces dernières sont symbolisées dans l'Apocalypse par des bêtes. Mais l'essentiel pour nous est de savoir qu'elle est terrassée par l'agneau, ce qui signifie que le temps de l'établissement du royaume est proche, à la porte même, et qu'alors les forces de l'injustice ne seront plus victorieuses. C'est d'ailleurs ce qu'Ésaïe prédit en disant « Les habitants du monde apprendront la justice ».
Pierre, tout ceci est merveilleux. Et nous devons, je pense, nous rapporter au 22e chapitre de l'Apocalypse où, comme nous l'avons vu au début de notre émission, un fleuve d'eau de la vie sort du trône de Dieu et de l'agneau. Pourrais-tu me dire si ce double symbolisme du trône et de l'agneau signifie que les bénédictions qui seront répandues sur les peuples par le royaume du Seigneur auront été rendues possibles grâce à l'œuvre sacrificatrice de l'agneau immolé?
Thomas, je crois qu'il en est bien ainsi, et tout comme le montre le prophète, le fleuve d'eau de la vie sort du trône de Dieu et de l'agneau.
Mais encore, Pierre, je lis qu'au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie. S'agit-il ici du même arbre de vie qui se trouvait dans le jardin en Éden et duquel nos premiers parents ne purent plus manger les fruits après leur péché?
Non, pas littéralement, Thomas, car cette prophétie de la révélation est symbolique. Néanmoins, l'emploi de ce symbole est destiné à nous faire comprendre le fait que tandis que nos premiers parents et leur postérité, le genre humain tout entier, perdit le privilège de manger le fruit de l'arbre de vie, de même, sera-t-il possible à tous les hommes, grâce à l'œuvre sacrificatrice de l'agneau immolé, d'obtenir la vie éternelle, ainsi que d'abondantes bénédictions?
Oui, et cela est prouvé par le fait, ainsi que l'indique la prophétie, que cet arbre symbolique produit 12 fois les fruits rendant son fruit chaque mois, procurant ainsi des fruits en abondance sans cesse renouvelés. Mais Pierre, es-tu bien sûr que cette prophétie aura son accomplissement intégral directement sur cette terre? Ne pourrait-elle pas se rapporter à certains égards à des conditions de joie et de vie dans le ciel?
Non, Thomas. Dans une autre description de l'arbre de vie, la dernière partie du deuxième verset précise que les feuilles serviront à la guérison des nations. Cela implique forcément l'accomplissement de la prophétie sur la terre, où les nations existent, lorsqu'en raison des suites désastreuses résultant de la grande tribulation par laquelle elles passent maintenant, les peuples de toutes les nations éprouveront un grand besoin de guérison.
Je remarque au 17e verset de ce chapitre une autre allusion au fleuve, plutôt à l'eau de ce fleuve. Je lis, « Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et celui qui entend dit, viens. Et que celui qui a soif vienne, que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. »
Combien tout cela est merveilleux. L'épouse est l'associée de l'agneau dans le travail du royaume, qui consiste à donner la vie au genre humain. Voilà bien une resplendissante perspective, n'est-ce pas, Thomas?
Ah oui, Pierre, sans aucun doute. Et, ami, beaucoup de détails complémentaires concernant cette brillante perspective pour l'avenir vous sont donnés dans la brochure « La révélation de Jésus-Christ ». Cette brochure, qui se rapporte plus particulièrement à l'explication du livre de l'Apocalypse, et la 10e d'une série d'études de tous les livres de la Bible. Demandez-en dès maintenant un exemplaire gratuit. Savez-vous que toutes les vérités capitales du plan de Dieu sont résumées dans le livre de l'Apocalypse? Dans l'Ancien Testament, Dieu promit de détruire le séjour des morts. Le livre de l'Apocalypse montre le séjour des morts jeté dans un étang de feu et détruit. À travers toute la Bible, la promesse d'une résurrection des morts est faite et maintes fois répétée. Le livre de l'Apocalypse nous apprend que le séjour des morts rendra ses morts. Jésus parle des portes du séjour des morts, et par le livre de l'Apocalypse, nous apprenons qu'il détient les clés du séjour des morts, au moyen desquelles il ouvrira ses portes. La brochure « La révélation de Jésus-Christ » attire votre attention sur tous ces points. La brochure vous sera adressée de suite sans aucun frais de votre part. Cette émission, se rapportant à l'étude et à l'explication de la Bible, vous a été présentée par les soins de l'Association des étudiants de la Bible, éditeur des publications Aurore. Nous aurons le plaisir d'être avec vous la semaine prochaine à la même heure. Faites-en part à vos amis, s'il vous plaît, et que Dieu vous bénisse tous.